Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Au mois d'avril 1988, les Nuits Magnétiques consacraient une semaine au métier de libraire en programmant une série en 4 épisodes qui donnait la parole à quelques-uns de ceux qui, à Paris ou en province, exerçaient cette profession dans la dernière ligne droite du XXe siècle. Parlant de leur métier, ils y parlaient d'eux-mêmes, de leur vie au milieu des livres et de la vie des livres, de cette profession qui déjà n'était plus ce qu'elle avait été, mais n'était pas encore ce qu'elle allait devenir pour s'adapter à un monde où le lecteur deviendrait rare et pour résister au commerce numérisé du livre livré à domicile. Métier comme un autre, libraire, certes, mais commerce comme un autre, sans doute pas, comme nous allons l'entendre, raconté par des libraires de la fin des années 80 et à travers le témoignage d'éditeurs, celui de Jérôme Lindon notamment. Dans le premier numéro de la série, Laure Adler posait pour commencer cette simple question « Qu'est-ce qu'un libraire ?» Nuit magnétique, les libraires, premier des 4 épisodes, diffusé la première fois le 19 avril 1988 sur France Culture.
Nuit magnétique, bonsoir. Je veux être libraire, dit le jeune homme. C'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur, et il n'y a aucune raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Nuit magnétique, toute cette semaine, les libraires. Trafiquants d'idées, messagers de culture, passeurs d'idéaux, les libraires ont toujours été à la fois un peu méprisés et jalousés. Le libraire ou la part obscure du désir. La librairie est bien le lieu de l'échange. Un beau matin, un jeune homme ayant plutôt l'air d'un adolescent entra chez un libraire et demanda qu'on voulût bien le présenter au patron. « Je veux être libraire. » « Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous. Je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin. » Nuit magnétique, en 4 étapes, les libraires. Jean Couturier, Laure Adler. Le jeune homme de Robert Walser n'imagine pas vivre sans toucher les livres, sans humer les livres, sans ranger les livres, sans vendre les livres. Les libraires sont la part active de l'édition. Dernier maillon de la chaîne, ils assurent le renouvellement et la propagation de ces étranges objets qu'on appelle livres. Les librairies sont des boutiques, les libraires sont des commerçants, même si, pour la plupart, ils préfèrent au bruit du tiroir-caisse le doux murmure de la conversation avec leurs clients. Les libraires ou la part maudite du circuit du livre, il y a, paraît-il, de bons et de mauvais libraires. Où se situe la frontière ? Sans doute dans la volonté de faire de cet espace un lieu de désir où les livres vivent de leur vie propre. Une librairie n'est pas une bibliothèque idéale et les libraires qui n'ont pas voulu le savoir ont fermé boutique. Enquête donc sur cette étrange profession aux contours vagues. Personne ne sait actuellement en France combien il y a de librairies, de points de vente de livres et tout le monde peut, du jour au lendemain, devenir libraire. Où va la librairie et qui sont les libraires? En exergue de cette série, je citerai cette phrase d'Adrienne Monnier. En m'établissant libraire, mon idée n'était pas de gagner les bonnes grâces des auteurs, mais celle de leurs livres. Leurs livres où ils mettent le meilleur d'eux-mêmes et de nous tous. Je visais le royaume de Dieu, le reste me fut donné par surcroît. Les libraires numéro 1.
Bernard Ouellet. Je crois qu'on peut tomber amoureux de son libraire ou de sa libraire. Enfin, ça me semble évident. Parce que c'est quelqu'un qui a un rôle déterminant parce que il vous donne à connaître, enfin, il vous emmène par la main vers des territoires inconnus, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un rôle incroyable. Et je veux dire, quand les libraires font vraiment ce métier-là, enfin, moi, je trouve que c'est un des plus beaux métiers du monde. Et d'autre part, je veux dire, c'est un des plus beaux métiers du monde aussi par ce qu'ils apportent à celui qui vient dans leur librairie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là vraiment, je veux dire, qui donne des bagages à des gens, quoi, qui leur dit, voilà, t'as un panier, je vais te mettre ça et ça et ça dedans, et ça construit un individu. Parce que, justement, il est au centre des choses, il est au centre de, je veux dire... Il y a quelqu'un un jour qui se met, je veux dire, c'est quand même un mécanisme compliqué. S'il y a quelqu'un qui un jour dans sa petite chambre comme ça ou dans son appartement luxueux se met devant une feuille blanche et puis il écrit. Et il écrit de sa mémoire parce qu'il lance un cri vers ces gens qui normalement devraient les lire. Et puis ces gens qui vont les lire, la seule manière pour nous de les toucher, c'est par l'intermédiaire du libraire. Donc c'est un rôle déterminant, c'est un rôle essentiel, c'est un rôle, je veux dire, capital dans la relation entre un auteur et son lecteur.
Françoise Pruner.
Je crois qu'un libraire, c'est quelqu'un qui n'est, je dirais, pas tout à fait normal, en fait. C'est une personne qui, avant tout, est passionnée par la lecture, je dirais, avant d'en arriver à la vente du livre. Je crois que c'est un métier complet. Je crois qu'on est libraire, en plus... pas 8 heures par jour, je crois qu'on est libraire dans sa vie après la librairie.
Pierre Pain.
Je suis fier d'être libraire et sur ma carte de visite, il n'y a rien d'autre que mon prénom, mon nom et cette indication libraire. Seulement, il est vrai que je m'interroge bien souvent et que je m'étonne lorsque je vois qu'on franchit la porte de la librairie pour me demander tant de choses qui n'ont aucun rapport avec la librairie. Et donc je me dis que sous ce câble, on entend peut-être autre chose que ce que nous sommes, et qu'on en arrive à cette chose tout à fait affolante qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est de dire, par exemple, en ce qui nous concerne, mes collaboratrices et moi-même, que nous sommes des libraires qui lisons.
Un beau matin, un jeune homme, ayant plutôt l'air d'un adolescent, entra chez un libraire et demanda qu'on voulût bien le présenter au patron, ce que l'on fit. Le libraire, un vieil homme très digne, dévisagea avec attention ce garçon qui se tenait devant lui un peu gêné et l'invita à parler. « Je veux être libraire, dit le jeune homme. C'est une envie que j'ai et je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de la suivre jusqu'au bout. Je me suis toujours imaginé le commerce des livres comme quelque chose de merveilleux, un bonheur. Et il n'y a aucune raison pour que j'en sois privé plus longtemps. Regardez, monsieur, comme je suis là devant vous. Je me sens une extraordinaire aptitude à vendre des livres dans votre magasin. En vendre autant que vous pourriez souhaiter. Je suis un vendeur né, affable, vif, poli, rapide, parlant peu, décidant vite, comptant bien, attentif, honnête, mais pas non plus aussi bêtement honnête que j'en ai peut-être l'air. Je sais baisser un prix quand j'ai affaire à un pauvre diable d'étudiant, et je sais aussi le faire monter s'il ne s'agit que de rendre service aux riches, dont je vois bien que parfois, ils ne savent que faire de leur argent. Je crois, malgré mon jeune âge, posséder une certaine connaissance des hommes. D'autre part, j'aime les hommes, si différents soient-ils. Je ne me servirai donc jamais de ma connaissance des hommes pour avantager l'un plutôt que l'autre, pas plus que mes concessions au pauvre diable n'iraient jusqu'à nuire à l'intérêt de vos affaires, monsieur. En un mot, sur ma balance de vendeur, l'amour des hommes sera en parfait équilibre avec la raison commerciale, laquelle me paraît tout aussi importante et nécessaire à la vie qu'une âme aimante et généreuse. Je saurai trouver le juste milieu. Soyez-en dès maintenant convaincus.
Bernard Guillemot, libraire à Quimper.
On parlait de mission, de sacerdoce, donc des mots trop importants pour être véritables, forcément. Mais, bien sûr, si on veut être honnêtement un libraire, il faut quand même passer par quelque chose qui est de cet ordre-là, évidemment. Parce que, dans le cas contraire, si vous faites un simple calcul marchand, évidemment, c'est invivable. C'est invivable. Mais peut-être que aussi le livre est aussi de l'ordre du désir. Quoi. C'est peut-être plus important seulement que de l'ordre une situation aisée, une fin de mois prévue. Quoi. Mais c'est vrai aussi que de toute manière, un livre me touche. Quoi. Je suis touché par le livre. Quoi. Donc il y a quelque chose aussi là qui me traverse moi. Quoi. C'est pas simplement un simple contact des mains. Quoi. Un livre, pour moi, c'est... On touche à l'homme. Quoi. On touche à l'homme. Alors, évidemment, parler d'homme à un tiroir-caisse, c'est impossible. Quoi. Le tiroir-caisse, ça, c'est une chose qu'il ne peut pas enregistrer. Difficile. Difficile. Mais je crois que... Je pensais à une chose amusante, parce que donc, par rapport à toutes ces choses, à ces FNAC, à ces grandes surfaces, il y a une chanson de Ravel, vous savez, qui est tirée d'un texte de Jules Renard, qui parle de ces volailles pacifiques. Eh bien, je crois que les FNAC, c'est ça, quoi, c'est de la volaille pacifique. Quoi. Alors, bien sûr, parfois, on peut dedans trouver un livre intéressant. Évidemment, puisque sur le nombre, n'est-ce pas, donc on peut trouver, mais c'est de l'ordre de 1%, quoi. Alors je crois que comme ici, dans ce lieu-ci, même s'il est... Bon, c'est peut-être un petit peu isolé, puisque là, on est là en famille, quasiment, disons. Hein. Il y a une espèce de côté convivial à vous recevoir, ou bien vous à me recevoir. Enfin, les deux en même temps, du reste. Et bien ici, je crois que comme les livres occupent 99% de la place. Quoi.
Françoise Sorel, libraire à Paris.
C'est pas toujours facile de parler d'un livre. On peut se borner à le raconter, et bon, ça, je crois que c'est quelquefois ce que les gens ont envie d'entendre. Mais c'est vrai qu'on est amené, très souvent, à dévoiler un rapport très très personnel, très intime avec un livre. Et moi, je peux pas le faire avec tout le monde. C'est-à-dire, il y a des clients qui me demandent des conseils et avec qui j'ai pas... énormément de feeling et j'en parle très mal en général. J'ai beaucoup de mal à en parler, même en me forçant, en me disant avec d'autres ça passe quelquefois, ça passe par contre très très bien. C'est-à-dire on a envie au contraire de raconter quelque chose de très secret, de très... On est content quand on a vendu beaucoup d'exemplaires d'un livre, pas seulement parce qu'on a réussi son coup, c'est aussi parce que 50 personnes l'auront aimé, on espère. C'est pas seulement parce qu'il y en a 50 en moins dans la librairie. C'est aussi que ça... Il y a tout un travail qui continue, en fait, et dont le libraire n'a plus la maîtrise. C'est vrai que quand on met le livre dans le sac du client et que le livre s'en va, bon, on n'a pas un rapport comme ça très intime et presque charnel avec chaque livre. Mais hop, on a vraiment l'impression d'avoir été un passeur, justement. Et puis les livres, on les garde en magasin. La librairie, c'est pas seulement un endroit où les livres passent. C'est un endroit où il y a un fond aussi, où les livres sont plus sur la table, mais ils sont dans le rayon. Un livre qui est paru il y a 10 ans, on l'a toujours. Un livre qui est paru il y a 3 ans, on l'a toujours. C'est vrai que c'est un peu une mémoire. Il y a des rayons comme ça qui disparaissent complètement des librairies, parce qu'on s'est rendu compte que c'est... peut-être un petit phénomène de mode qui est arrivé et puis c'est fini.
Catherine Martinzé, libraire à Orléans.
On peut y passer de nombreuses années de sa vie et je me souviens que quand j'ai descendu pour la première fois les marches du sous-sol des temps modernes, j'ai été frappée par ce qui me frappe toujours encore, quand j'entre dans cette librairie, c'est les livres, mais c'est aussi l'odeur des livres. Ça, c'est une chose extraordinaire. Donc, on entre là et on se dit, je passe beaucoup de temps de ma vie. Est-ce que je pourrais pas être mieux ailleurs ? Alors, certainement, il y a d'autres lieux qui font envie, mais je dirais que tout converge dans une librairie, c'est-à-dire que le lieu ne change pas. Mais autour de ce lieu-là, chaque jour, c'est autre chose. Je veux dire, il n'y a rien de moins statique qu'une librairie. Les livres arrivent, et avec les livres, ce sont des gens. Les gens qui viennent les chercher, mais aussi ceux qui peuvent venir parler de ces livres-là. Alors, c'est très fascinant, je dirais, et je crois qu'on ne peut pas se détacher d'un lieu. Et je crois qu'on y tient comme on tient une terre, presque.
La librairie porte un nom marin, la Vigie. Je l'ai baptisée ainsi à cause de l'étroit escalier à vis en bois qui, érigé en son centre, débouche sur une pièce au premier étage. L'escalier ressemble au mât d'un bateau phare. Mais la pièce est minuscule et aveugle. À vrai dire, rêve parfois Manuel, la bonne enseigne devrait être la Vigie obscure. La librairie ne connaît que des navigations immobiles dans les brouillards et l'opacité. Pour les livres du figuier, il a aménagé au fond, non loin de ceux d'Armand Haineuse et de Guy Lévy-Manot, autre typographe poète, une place réservée. Un plan incliné d'isorel perforé sur lequel des crochets achetés au bazar de l'hôtel de ville permettent de disposer certains ouvrages à plat, tandis que le reste de la collection est rassemblé, serré sur la tranche, dans un rayon à mi-hauteur. Ils se vendent lentement. L'important se révèle ailleurs. Il constitue rapidement un élément indispensable au lieu. Au bout de peu de temps, Manuel n'imagine plus que la librairie puisse exister, ou en tout cas rester elle-même sans leur présence. Tout ce que contient la librairie en est imperceptiblement changé. Les acheteurs en sont divers. Il y a quelques valeurs sûres, certains recueils d'Éluard, des textes oubliés de Tristan Corbière et de Max Jacob, la traduction de l'Odyssée par Onu Baladal, l'une des plus originales et des plus fidèles à la fois, n'existe que chez FG. Il est aussi des fanatiques qui viennent régulièrement se réapprovisionner d'un livre précis dont ils sont amoureux, pour l'offrir à leurs amis. Tel est le cas pour La Petite Fille d'Ocalie ou La Prière du Cœur, texte mystique du Mont Athos, ou pour Le Petit Traité de Tir à l'Arc, quintessence de la spiritualité zen. Pour le reste, c'est plus imprévisible. Des poètes peu connus ne se vendent pratiquement jamais. L'insolite et le précieux trouvent davantage preneur. Mais il est difficile de comprendre ce qui pousse tel individu rondouillard, d'allure notariale, à s'éprendre de la chasse au snark, ou tel échassier myope à glisser soudain entre Heidegger et une série noire, La cueillette du cristal, texte rousseauiste anonyme, promenade limpide entre glacier et azur. Et si, s'interroge Manuel face à de tels mystères, si j'avais là comme l'indice d'une preuve de l'existence de l'âme ? Il préfère ne pas approfondir. Il y a aussi des rejets, voire des allergies, des jours où les tripoteurs de livres passent par bataillon devant le rayon sans rien acheter. Le soir, le ressac laisse ses souillures sur les livres meurtris, les marques grasses ternissent les couvertures fragiles, la gomme et le tampon Gex ne peuvent réparer complètement. Ils étendent la grisaille, les coins s'écornent. Après les grandes marées, les livres gisent épars, dérisoires, comme ces jonchés de catalogues éphémères piétinés devant une bouche de métro par les passants méprisants.
Vous écoutez Nuit Magnétique, les libraires, ce soir première émission, chaque jour un itinéraire, un récit, ce soir celui de Max-Philippe Delatte, quand la vie et la librairie se confondent.
Au départ, j'avais un peu l'intention de faire l'école des chartes, bien que dans ma famille, il n'y avait aucune spécialité de ce côté-là, ni du côté professorat, ni du côté librairie, ni même du côté commerçant. Et puis, mon père est mort, j'étais pas encore majeur, il a fallu travailler, et sur le moment, j'ai pas vu autre chose que de travailler en librairie.
Mais pourquoi ? J'ai commencé... Il y a beaucoup de métiers possibles.
Oui, mais enfin, parce que tout le temps, j'avais été très attiré par les livres, j'ai lu de très bonne heure, on m'a donné toujours beaucoup de livres, et puis j'avais peut-être quelques souvenirs d'enfance. Mes premiers souvenirs d'enfance de livres, c'est cette fameuse petite bibliothèque universelle, des tout petits volumes brochés bleus qui sont presque l'ancêtre à la fois des livres de poche et des collections de clubs de livres, et où il y avait en 100 volumes la littérature mondiale. C'était absolument extraordinaire. Il y avait aussi bien des textes chinois, hindous, que les grands classiques français. Et mon grand-père, qui était un artisan bijoutier, avait cette collection complète, et j'ai toujours vu ça dans sa bibliothèque, et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au livre. Je peux dire que le point de départ réel, c'est ça. Et puis alors le livre, on est séduit par quelque chose. C'est le livre qui m'a séduit, aussi bien par la lecture, puisque je lisais tout ce qui me tombait sous la main réellement, soit un bout de journal ou un livre. Et puis le contact physique des livres a toujours été quelque chose auquel j'étais très sensible. C'est pourquoi j'ai en même temps été bibliophile et non seulement un grand lecteur.
Voilà. Comment avez-vous franchi le pas ? Quelle idée vous vous faisiez du métier avant de l'exercer ?
Je ne me faisais aucune idée de rien du tout. D'ailleurs, je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé à travailler, il fallait que je travaille vite. Alors j'ai commencé à travailler dans le quartier. On m'a trouvé une place... rue de Passy, chez un libraire papier, on m'occupait plus spécialement des livres. Je sortais de Janson. Alors là, ça a eu un peu une rupture avec mes amis de Janson, parce que, habitant le quartier, s'ils me trouvaient le matin en train de laver devant le magasin, c'est moi d'ailleurs, c'est pas du tout une critique que je leur fais, c'est moi qui avais cette espèce de recul, ça fait que j'ai un peu rompu avec un certain nombre de camarades.
Pourquoi ? Parce qu'eux, ils faisaient leurs études et qu'ils trouvaient pas...
Eux continuaient, vous savez, c'était la bourgeoisie du 16e, enfin, ils n'auraient peut-être pas du tout trouvé mal, d'ailleurs, c'est pas du tout un reproche, mais moi, je me sentais gêné, enfin. Bon, puis ça n'a pas duré très longtemps là, j'avais mes amis le premier, quand j'allais à Janson, m'avait un peu initié à la librairie, c'était Henri-Philippe Livet, le poète, qui avait une librairie également rue de Passy, qui m'avait beaucoup conseillé, chez lequel j'avais connu déjà pas mal de gens. J'avais connu André Fontenas, Fernand Fleuret, Alain Saint-Augan, des gens très variés, mais qui habitaient tout autour dans le quartier. Et dans cette librairie où je suis resté quelques mois, j'ai été un des tout premiers, je crois, à organiser des signatures. C'est que j'ai fait une signature pour Marcel Prévost, qui était le grand écrivain de l'époque, qui habitait le quartier aussi, et pour Ronny Aîné, qui était très âgé à l'époque, et qui m'a dédicacé un livre en me disant à Max Delatte, qui m'a eu en le soulignant trois fois, car c'est la seule signature qu'il avait jamais fait et qu'il a jamais fait dans toute sa vie. Alors ce côté contact aussi avec des écrivains m'intéressait beaucoup et m'a attaché encore plus au métier. Mais comme il fallait trouver quelque chose pour vivre, je suis entré par des amis qui m'ont trouvé ça chez Gibert, la librairie classique, au rayon classique au 30 boulevard Saint-Michel, où je suis resté jusqu'en 1939, où là... Je me suis marié et en même temps, avec l'aide d'un oncle, je devais m'installer libraire. Mais il n'était pas question de racheter un fonds, d'ailleurs c'était difficile. J'ai donc cherché un emplacement Et j'ai trouvé cet emplacement 133 rue de la Pompe, tout près d'ici, qui était libre parce que c'était un dépôt d'affaires de la cagoule. Ça ne dit plus rien aux jeunes d'aujourd'hui, mais c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Et ce magasin appartenait à un nommé Sépulcre, un industriel belge, qui en avait fait un dépôt d'armes. Alors, quand je suis arrivé là pour voir le magasin, il y avait un appartement derrière, c'était très grand. Il y avait un mètre de débris d'un bout à l'autre. Et dans la première pièce, le premier bureau derrière le magasin, il y avait une immense cheminée en stuc, style Renaissance, qui avançait jusqu'au milieu de la pièce. Et j'étais avec ma mère, je n'étais pas marié encore. Je lui dis, tiens, on dirait une cage d'armes, sans savoir où j'étais. Or, c'était effectivement ça. Alors c'est grâce à la cagoule que j'ai trouvé ce magasin, c'est-à-dire sans reprise, simplement en le louant, ce qui est aujourd'hui paraît quelque chose d'extraordinaire, surtout que c'est un très très grand magasin.
Vous faites du trafic d'idées, quoi, au lieu de faire du voilà, trafic d'armes. Si vous voulez.
Et bon, je me suis marié au mois de juin, de juillet, pardon, je ne sais pas. J'ai commencé à préparer le magasin, à l'installer, etc. Je devais ouvrir le 1er septembre 1939, une date qui est devenue illustre, mais pas pour les mêmes raisons. Je n'ai donc pas ouvert, mais j'ai eu la chance, et c'était vraiment une chance, de pouvoir garder ce magasin pendant toute l'occupation. J'ai eu de temps en temps des idées comme ça, qui après paraissent des idées de génie, comme j'allais être mobilisé et que tous les moyen était bon de gagner de l'argent, j'ai fait mettre une palissade en bois devant tout le magasin. Il y avait quand même 9 mètres de façade. Et j'ai loué donc cette palissade à des afficheuristes, des afficheurs plutôt. Mais surtout, ça m'a évité probablement d'être requis, parce que, étant aussi ou des Allemands ou certains groupes français, donc, vous devinez l'origine, avait vu ce magasin qui était très grand, il aurait été requis, tant plus que je n'étais que moyennement tranquille, étant donné que ma mère s'appelait Lévy, et que, évidemment, je ne pouvais rien faire d'officiel. Je suis donc réentré chez Gibert au bout de quelques mois, où je suis resté, mais dans les bureaux, jusqu'au moment où j'ai été requis pour le STO. Et en ayant la chance, enfin, à la suite de démarches dont j'ai jamais su très bien si elles avaient réussi ou si c'était un hasard, mais qui serait trop long de vous raconter, à être mobilisé chez Hutchinson à Puteaux. Et le seul diplôme que j'ai, d'ailleurs, n'ayant eu ni le Bachot, parce que je me suis arrêté un peu avant, ni aucun autre diplôme, même pas de certificat d'études, je n'ai pas eu, je ne sais pas pourquoi, on ne le pensait pas. C'est un diplôme de coupeur de gobe chez Hutchinson. Non, je suis très fier. Voilà. Et puis alors, un peu avant, je me suis occupé de pas mal de choses. J'étais quand même pas mal renseigné sous l'occupation. J'ai mis ma famille à l'abri. Et officiellement, j'ai jamais pu revenir, puisque ça a été juste quelques jours avant le débarquement. En fait, j'étais revenu à Paris. J'ai pu m'occuper d'un certain nombre de choses. Ravitailler des gens cachés, etc.
Enfin, tout ce que...
Oui, enfin, il ne faut pas exagérer, j'ai fait partie d'aucun groupe, mais enfin, j'ai fait mon petit... Tout ce que je pouvais faire, la seule chose un peu dangereuse que j'ai faite, c'est d'aider un ami juif étranger à qui j'avais trouvé un refuge sous un faux nom, bien sûr, dans un appartement d'un de mes hommes qui, lui, était en zone libre, et qui s'occupait de cacher des enfants juifs. Et à un moment, il s'est trouvé repéré, et il m'a demandé, moi, de le remplacer pour aller porter les papiers et tout ça. Mais je lui dis, mais je ne peux pas, parce que je n'ai pas de carte d'identité, et je ne peux pas la faire renouveler, voilà pourquoi. Et alors il m'a dit, bon, ben, vous me donnez votre carte, je vous la fais changer, j'ai quelqu'un à la préfecture, Et comme ça, je dis, bon, d'accord. Alors, il m'a pris ma carte. Et là-dessus, en sortant de la préfecture le lendemain, il s'est fait arrêter dans le métro avec des tickets de ravitaillement qu'il emmenait pour les enfants. Et alors, les fichiers étaient chez moi. Le risque que j'ai pris, j'ai pas pu voyager, mais enfin, j'avais quand même des choses, si vous voulez comprendre. Ben voilà, ça s'est terminé, j'étais là à la libération qui restait. Évidemment, des souvenirs inoubliables. Et à ce moment-là, j'ai voulu ouvrir.
Enfin ouvrir
cette librairie qui était installée. Enfin, j'avais plus qu'à... J'avais des livres, d'ailleurs, m'en faire rentrer d'autres. Et entre-temps, j'avais un peu vécu en faisant... Les livres étaient devenus rares, notamment toutes les traductions, etc. Alors... Comme chez Hutchinson, on travaillait soit la nuit, soit le jour, ça me laissait quand même des heures libres, en faisant du courtage et en ramenant à des libraires ouverts des livres introuvables. Ce qui m'a aussi fait connaître un aspect du métier, je restais quand même en contact. Alors à ce moment-là, ben, les syndicats des libraires qui profitaient des lois édictées par Vichy limitant les ouvertures, se sont opposés à mon ouverture alors que je devais ouvrir en septembre 39 et que ça avait été annoncé. Ce qui veut dire que je n'étais pas très bien disposé pour les syndicats de libraires. À ce moment-là, la loi a été abrogée, j'ai pu ouvrir. Ça fait que j'ai ouvert en janvier 46.
Alors qu'est-ce que vous aviez dans votre librairie en janvier 46?
J'avais pas mal de livres quand même entassés. J'avais quand même entassé pas mal de choses qu'on ne trouvait plus. Et puis, évidemment, les éditeurs m'avaient mis ce qui leur restait, même tout, quand même des ouvrages de fond. Mais enfin, j'avais surtout des ouvrages qui étaient absolument introuvables ailleurs. Ça fait que la librairie a démarré assez rapidement. Et je dirais même un peu trop rapidement, parce qu'au début, j'ai été un peu dépassé. J'ai pas pu l'organiser comme je l'aurais voulu. J'ai mis des années à rattraper ce retard de départ. Voilà, et puis ensuite...
Qu'est-ce que vous vendiez à l'époque, vous vous souvenez? Parce que le papier était très cher, les livres étaient devenus rares. Vous ne pouviez pas seulement écouler le fonds que vous aviez accumulé pendant des années.
C'est essentiellement là-dessus que j'ai vécu pendant quelques mois. J'avais quand même pas mal de choses. Et puis, bon, j'avais quand même des relations dans l'édition, si vous voulez, petit à petit. Savais un peu qui j'étais. J'étais membre de... Comité des Amis des Éditions de Minuit, enfin, un certain nombre de choses comme ça qui me donnaient, je ne dis pas des privilèges, mais enfin des facilités, si vous voulez, pour avoir certaines choses. J'ai fait une grande séance d'accueil avec signature des écrivains des Éditions de Minuit, qui avaient Éluard, Aragon, Dasquier de la Vigerie, Vercors, Aveline, Cassou, etc. Bon, tous ne sont pas venus, évidemment, mais enfin, beaucoup sont venus quand même ce jour-là. Et les autres ont signé Paulan, enfin... Et puis, enfin, différentes manifestations de ce genre, pris une position que n'avaient pas les libraires du quartier, par exemple. Une des premières vitrines que j'ai fait, c'était un ouvrage de Desnos, illustré par Labisse. Et j'avais fait toute ma vitrine qui avait 6 mètres de long là-dessus. Ça a évidemment fait un peu scandale, mais enfin, ça avait aussi attiré l'attention. Enfin, voilà, j'ai démarré comme ça.
À la libération, ça voulait dire quoi d'être libraire?
Ça voulait dire, enfin, c'était comme ceux qui avaient fait un peu de résistance, qui étaient mêlés, un grand espoir de pouvoir vraiment changer les choses et au point de vue de la littérature notamment, de promouvoir des gens d'abord qu'on aimait bien sur le plan littéraire, puis enfin qu'il y avait des idées qui étaient les vôtres. Et alors ça, j'estime quand même, je crois pouvoir dire que je l'ai toujours fait dans la mesure de mes moyens. Et souvent pour des écrivains peu connus, du moins à l'époque, si vous voulez, j'étais un des premiers... Des gens d'ailleurs très variés à tous les points de vue, même au point de vue idée, mais enfin, Henri Calais, Francis Ponge, Ségalène, c'est quelqu'un que je connaissais d'avant-guerre, parce que j'avais écrit des articles sur lui dans une revue que j'avais, mais qui était totalement inconnu à l'époque, absolument. Et puis, enfin, des tas d'écrivains comme ça, peut-être un peu de second rang, mais qui n'avaient certainement pas la place qu'ils auraient dû avoir, et dont certains ont pris, enfin, je songe par exemple à Ponge, qui a pris, lui, une grande place, mais même Calais, qui était totalement inconnu, a pris une place dans un petit public, mais enfin, qui le suit avec beaucoup d'attention et d'amour, je dirais.
Donc c'est de créer des passions, faire connaître des écrivains.
Oui, des écrivains qu'on aimait particulièrement, les mettre en avant, les faire connaître à des lecteurs eux-mêmes susceptibles de les répandre. Et je crois que c'est ce qui compte le plus en librairie, beaucoup plus que la publicité qui ne sert pas à grand-chose, qui ne peut servir qu'à un livre quand il a atteint 100 000 exemplaires, donc qui pour moi ne m'intéresse pas. Enfin, j'exagère un peu, mais enfin c'est un peu ça, si vous voulez. Et la critique, dont l'influence a énormément baissé, probablement d'ailleurs parallèlement à une diminution de la qualité des critiques, qui n'est pas toujours de leur faute, parce que quand on songe même encore à la période entre deux guerres, un grand critique qui tenait le rez-de-chaussée d'un quotidien comme Le Temps ou choses comme ça, pouvait vivre de sa rubrique. C'est-à-dire que ça lui donnait le temps toute la semaine de préparer son article. Il faisait autre chose, mais enfin, il avait le temps, ce qui était devenu tout à fait impossible. Ça n'est qu'une rentrée d'argent parmi d'autres. Donc il ne peut pas passer des heures et des heures à son article. C'est l'ensemble qui a changé. On ne peut pas accuser les gens. Il y a quand même, je pense, dans l'ensemble, dans la presse, pas seulement dans la presse d'ailleurs, une diminution de connaissances, de qualité, de culture. Parce que on est quelquefois bien affligé de lire, non seulement d'ailleurs dans la presse, mais même dans des livres dits sérieux, des erreurs monstrueuses, enfin, uniquement parce que ça n'a pas été ou corrigé sur le plan de l'impression matérielle, ou vérifié sur le plan de l'événement, des dates, etc. Et quand on se dit que la plupart des écrivains de plus en plus reprendront des documents dans les ouvrages parus, on se dit que ces erreurs vont durer toujours. Enfin, c'est... Là, enfin, personnellement, moi, je suis très, très dégoûté du métier. Je continue à le faire comme ça. J'y ai entraîné ma fille, puisque c'est elle qui me succède là, dans un mois. Enfin, moi restant, mais je m'occupe maintenant presque uniquement des éditions originales, des choses qui m'intéressent vraiment.
Qu'est-ce qui vous dégoûte, là, maintenant, dans ce métier?
Écoutez, quand vous téléphonez à une maison, même comme Gallimard, et encore, c'est celui qui a gardé le plus de tradition, et quand on demande des éditions originales, et qu'on vous dit qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas ? Ou que quand on se nomme, on dit la librairie de Latte, bon, c'est pas pour me vanter, mais enfin, ça fait quand même 50 ans que je suis libraire, et en général, on me connaît. Ah, la librairie comment ? Ah, vous êtes à Paris ? Ou des réflexions de ce genre, vous savez, c'est un peu désespérant quand même, sans compter alors les chefs de vente racontent aux représentants qui, de bonne foi, viennent voir des choses ahurissantes.
Ah bon ?
Une nouveauté d'un tel. On leur dit, oui, monsieur, c'est paru en 1927 chez tel éditeur. Alors, ils sont des yeux comme ça. C'est pas de leur faute, on leur a pas dit. Et puis, l'organisation par elle-même, alors sur le plan même commercial, sur le plan pratique, c'est effrayant, ce sont des machines. Alors, quand ça marche pas, c'est toujours la machine qui ne marche pas, c'est jamais... Alors c'est vraiment très 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 décourageant parce qu'on passe son temps à rouspéter, à faire rectifier des choses. Si encore cette modernisation technique, cette une technique nouvelle servait à gagner du temps à tout le monde. Bon, on ne peut pas ne pas vivre avec son temps, c'est évident. Mais là, c'est le contraire, on perd plus de temps maintenant. Parce que dans le temps, on avait toujours quelqu'un qu'on connaissait, et ça s'arrangeait tout de suite. Bon, chez Gallimard, par exemple, je téléphonais à Caen ou à Hirsch, en 10 minutes, le problème était réglé. Donc maintenant, il faut savoir qui est là, parce que si c'est 6 mois après, c'est plus la même personne. Alors vous demandez quelqu'un, ah ben non, elle ne fait plus partie, ou elle est partie à un autre service. Mais enfin, alors quelquefois, je me dis, oui, c'est parce que je suis un vieux bonhomme, maintenant, je peux les passer. Puis d'autres fois, je me dis non, parce que j'entends des jeunes qui raisonnent comme ça, qui me disent exactement la même chose, malgré tout.
Mais vous ne voyez pas autre part que parmi vos livres?
Moi?
Oui.
Non. Non, ça... ce serait pas possible. Ce serait pas possible.
Près de la Seine, la vigie vit au rythme des mouvements qui, chaque jour, à heure fixe, animent le quartier. La librairie se trouve à quelques mètres en retrait du boulevard que les passants parcourent matin et soir, comme le courant d'un estuaire qui s'inverse en suivant les marées. Chaque fin d'après-midi, vers 6 heures, le jusant dépose au seuil de la boutique une petite foule, un moment étale, qui entre, tourne lentement autour des tables de livres et s'arrête devant les rayons. Ce sont les banlieusards. À cette heure-là, lorsque les jours sont à la pluie, le flot grossit encore. Alors il devient pour quelques moments difficile de circuler dans la masse serrée qui stagne entre les livres. Il s'instaure des silences mal meublés par le bruit des pieds se traînant sur le plancher grinçant, des pages tournées, des raclements de gorge et des vagues conversations à voix basse. Parfois, une chaussure maladroite vient heurter sous un comptoir la soucoupe du chat errant recueilli, un tintement étouffé, et le lait se répand entre les planches disjointes. Les banlieusards passent ainsi le temps de l'attente du train qu'ils vont prendre à la gare voisine. Ce sont eux qui ont constitué la première clientèle et la plus fidèle. Leur lecture et leur curiosité sont imprévisibles. Leurs choix sont souvent brusques et sans commentaire. Il en est d'ailleurs qui n'achètent rien, ou si rarement, et qui reste là, debout, à lire en silence avec une patience infinie. Manuel est convaincu qu'il pourrait, pour certains, leur faire réciter de mémoire, comme un catalogue, la librairie entière. Il arrive que lorsqu'il peine à retrouver un livre demandé par un client, l'un de ses lecteurs lui en indique l'emplacement d'un geste ébauché de la main, d'un regard, timidement, modestement, avec l'air de s'excuser. Sans avoir échangé un mot, il a de l'affection pour plusieurs. Il en est un particulièrement que son assiduité taciturne lui a fait surnommer son lecteur en chef. Celui-là lit les 4 tomes de L'homme sans qualité. Plus tard, ce sont les rendez-vous avant le cinéma. Et plus tard encore, après 10 heures, la sortie des rares restaurants qui existent par là. Des visiteurs plus fortunés, montrant leur culture avec assurance, affectant des connaissances et parlant haut. Les étudiants viendront peu à peu au fil des ans. Mais quelquefois, la porte de la librairie s'ouvre sur des voyageurs venus de plus lointaines banlieues que Juvisy et Massy-Palaiseau. Un souffle de vent passe sur la vigie, né très loin, qui redonne aux livres empilés leur vrai sens. Ils ne sont plus des feuilles déposées là par une histoire en panne sur les tables et les rayons. Les voilà prêts à sortir de leur provisoire silence pour reprendre leur vol à l'appel de l'air libre. Comme moi, Manuel veut que cette librairie s'ouvre sur le monde, qu'elle ne soit pas seulement cet espace fermé de toutes parts cerné par des murs tapissés de livres, que le plancher usé soit aussi celui d'un ponton amarré dans cette rue, mais débouchant sur d'autres rivages. Il faut dépoussiérer tout cela en invitant les vents du large.
Nuit magnétique, les libraires, première émission. Librairie de nouveautés, librairie papeterie, librairie spécialisée, librairie éditeur, librairie de quartier. On n'en finirait pas à dégrainer la litanie de tous ces lieux où exercent les libraires. Le métier est très diversifié et la définition impossible à donner, tant chaque libraire se fait une idée personnelle de ses activités. Il était donc nécessaire de poser cette question, qu'est-ce qu'un libraire ? Pas seulement aux libraires, mais aussi à ceux pour qui ils vivent, avec qui ils travaillent et au mieux, avec qui ils collaborent. Je veux parler des éditeurs. Réponse tout d'abord de Jérôme Lindon, directeur des éditions de Minuit.
En principe, donc, c'est quelqu'un qui vend des livres. Mais effectivement, il y a des quantités de classifications possibles à l'intérieur de ce métier qui sont pas forcément de caractère hiérarchique. Disons qu'il y a pour nous des libraires purs qui ne vendent que des livres. D'abord, qu'on peut distinguer des libraires qui vendent autre chose que des livres. Enfin, par exemple, de rayons de librairie à l'intérieur de grands magasins ou de grandes surfaces. Ou aussi par rapport aux marchands de journaux, qui sont aussi des gens qui vendent des livres et autre chose. Les libraires, c'est une caractéristique importante, tu vois, sont des gens qui ne pourraient pas exister s'il n'y avait pas de livres. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je les privilégie dans toute enquête en matière de livres, parce que c'est vraiment des gens dont l'existence dépend même du livre. Alors, il y a des... ce qu'on appelle, ce que les uns et les autres nous appelons des bons ou des mauvais libraires, mais ce n'est pas forcément les mêmes selon les gens. Il est évident qu'il y a des libraires qui sont adaptés à différentes espèces de publics, lesquels publics ont tous droit à l'existence, n'est-ce pas ? Et que c'est pour moi une des grandes richesses de cette profession, qu'elle est justement constituée d'éléments indépendants et divers. On se plaint souvent de ce que, alors, à l'intérieur de la profession, que les libraires ne constituent pas une entité très cohérente, fortement syndicalisée, ayant un avis définitif sur toutes les questions. Mais ce qui peut apparaître comme une faiblesse à certains égards constitue aussi une force au plan, disons, culturel, dans la mesure où, justement, ça garantit sa liberté. Personne ne peut mettre la main sur la librairie française, parce que la librairie française, elle existe en tant que telle, et que même si, dans certains cas... certains éditeurs, par exemple, ont pu exercer une pression, par exemple, sur telle ou telle forme de libraire. Il y en a d'autres qui ont été d'un avis différent. Et par conséquent, cette diversité me paraît un des principaux garants de la liberté d'expression, comme c'est le cas aussi pour l'édition, d'une façon générale. Plus il y a de libraires indépendants, plus il y a des chances qu'il y ait des livres divers et par conséquent des livres de qualité dans un pays. En revanche, plus on centralise, plus on fait dépendre le commerce du livre d'entités économiques qui ne sont pas forcément intéressées par les problèmes culturels, et plus les risques sont grands de voir l'édition se conformer à ce type de totalitarisme. Avec, bien entendu, pour résultat qu'on privilégie les ouvrages qui rapportent. Enfin, je veux dire, ceux dont, en ne mettant finalement plus en valeur que la notion de profit. Cette notion de profit, elle est presque la seule qui règle les activités dans un certain type d'endroit où on vend des livres, que ce soit des libres-services ou que ce soit des maisons de presse. Mais, et elle existe toujours, cette notion de profit, même dans les librairies pures, les librairies indépendantes. Mais en même temps, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de ce métier qui fait qu'il est complètement différent de la plupart des autres commerces, c'est que il est régi par deux systèmes de valeurs. D'une part, un système économique pur. Il faut tout de même, à la fin du mois, payer les dettes qu'on a, payer les gens qui travaillent dans la maison et payer les fournisseurs. Mais d'un autre côté, il y a ce qu'on appelle la notion qualitative, qui, évidemment, est très difficile à apprécier. Encore une fois, chacun a de la qualité, une idée différente, y compris chaque client, chaque acheteur de livres. Mais c'est évidemment cette notion fondée sur la diversité dont je parlais tout à l'heure qui rend ce métier tellement spécifique.
Entre l'édition et la librairie, les échanges sont constants et quelquefois fructueux. Gérard Bourgadier, lui, est actuellement éditeur, directeur des éditions de Noël, et il a commencé dans le métier du livre en devenant libraire. Son avis sur la librairie aujourd'hui.
J'ai connu des libraires de toutes sortes, oui. Il y a un stéréotype qui veut que les petits libraires soient meilleurs que les gros, c'est pas vrai. Il y a des grands libraires qui ont des responsables de rayons qui sont parfaits. Il y a même des carrefours. Moi, je me souviens d'un carrefour à Vénissieux dont le rayon livre était remarquable. Il était tenu par quelqu'un qui s'y entendait tout à fait bien et qui vendait Malcolm Lowry. C'était un rayon de librairie. Il n'y a pas de stéréotype dans ce cas-là. Il y a des grandes librairies qui sont nulles et des petites librairies qui sont nulles. Bon. Il y a des libraires qui ne vendent que ce qui se vend, qui sont que des amplificateurs de la liste de l'Express ou d'apostrophe ou, je ne sais pas, du feuilleton du Monde ou du grand article de 2 pages de Libé. Bon, ils repèrent ça, ils mettent ce livre en évidence et ils volent au secours du plus fort. Bon. Mais il y a des libraires qui sont des libraires de culture, c'est-à-dire des gens qui forment le goût des lecteurs. C'est pour ça que le système de l'office chez les libraires, pour peu qu'il soit modéré, juste qu'il ne soit pas un arrosage aveugle et bête, ce système de l'office, c'est-à-dire ce qui permet à un libraire d'avoir un livre qu'il peut retourner, mais qu'il peut le temps de ce délai proposer à des gens, c'est-à-dire des jeunes auteurs, des premiers romans, des essais compliqués, ces libraires-là font la différence. C'est-à-dire que les premiers 1000 lecteurs d'un livre, je crois que c'est le libraire qui le fait. Et donc c'est indispensable que ce réseau, c'est pour ça que je suis farouchement pour le prix unique et pour la défense du libraire. Je suis pour la vie aussi des grandes surfaces parce que c'est une autre clientèle qui y va. Mais ce travail, militant, c'est un petit peu fort, mais de préparation à la lecture et de suggestions, de conseils, il n'y a que les libraires qui peuvent faire ça. Donc s'il n'y avait plus de libraires pour faire ça, je crois qu'il n'y aurait tout simplement plus de chances pour des livres à risque, c'est-à-dire des livres d'auteurs qu'on ne connaît pas, par exemple. Et que s'il n'y avait pas des libraires qui conseillaient la lecture de Samuel Beckett ou de Faulkner même, puisqu'il a fallu très longtemps pour que Faulkner se vende, je me demande si on aurait pu continuer, ou Thomas Bernard à l'heure actuelle, ou Robert Pinget, je ne sais pas, ou Calafert, enfin bon, s'il n'y avait pas des travails de libraires pour conseiller et dire « n'écoutez pas forcément ce qu'on vous dit, lisez ça ». Et si ça ne vous plaît pas, à la limite, je vous le reprends. Il y a des libraires qui font encore ça. Je crois que la littérature se porterait mal. Donc moi, je suis à fond pour les libraires.
La cause est donc entendue. Vive les libraires. Sans les libraires, pas de littérature. Il n'y a pas de libraires, il y a des libraires. Mais qu'est-ce qu'une librairie ? La réponse de Bernard Guillemot.
Je crois d'abord que c'est... Faudrait peut-être dire que c'est d'abord le premier espace de liberté possible. De liberté, de rencontre, sans doute aussi une espèce de amicale, enfin jouissance, le jour où on peut trouver face à soi, eh bien, un premier lecteur. Alors, oui, je disais tout à l'heure, liberté avec un grand soupir et puis un grand silence blanc, un grand silence blanc à côté. Mais naturellement, qu'on soit libraire, lecteur, qu'on soit le livre même, lire finalement, c'est toujours être deux. Et peut-être que tout le drame de l'homme, le problème de l'homme, c'est de pouvoir trouver justement quelqu'un qui soit assez bah, j'allais dire le mot amoureux finalement, quoi, qu'il soit assez amoureux de soi ou de l'en soi ou autour de soi, quoi, pour pouvoir en tout cas avoir quelque chose qui se passe. Enfin, qu'un livre, il importe peu qu'il ait, disons, 1000 lecteurs, 5000 lecteurs. Quoi. Ce qu'il faut, c'est que, à un moment donné, il y ait une espèce de déclaration d'amour qui est entre deux hommes, quoi, évidemment. Quoi.
Dans le circuit du livre, il y a au bout le libraire et au départ l'auteur. Et il ne faut jamais l'oublier, comme le veut une certaine tendance de plus en plus présente dans le monde des concentrations éditoriales actuelles. L'auteur va donc porter son texte à un éditeur, qui est libre de l'accepter ou de le refuser. Si l'éditeur l'accepte, il donne alors le texte à son directeur commercial, qui choisira une stratégie de vente pour les libraires. Henri Cosse est directeur commercial des éditions de Minuit. Il inventorie pour nous les différents types de librairies.
En économie, et c'est un peu le langage codé dans les commerciaux d'édition, il y a ce qu'on appelle les petites librairies, qu'on va situer autour d'un million, d'un deux millions, deux de chiffre d'affaires. Je parle des librairies uniques, pas vendant que du livre, et que du livre de littérature générale. C'est-à-dire, il n'y a pas le scolaire et le technique, la littérature générale. Bon. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les moyennes librairies. Et dans les moyennes librairies, il y aura les petites moyennes, 2 millions, 3 millions, 3 millions et demi. Et ensuite, il y a des librairies entre 3 millions et demi et 7 millions. Et il y en a déjà très très peu. Puis ensuite, il y a les grosses librairies. Et les grosses librairies, on va dire, on dépasse le milliard de centimes. Je parle centimes car dans le livre, quand on commence en librairie à aborder le milliard, on passe au centime. On dit pas des millions. Bon. Et on appelle grosse librairie aussi bien, c'est donc un terme même trop générique, puisque aussi bien des librairies qui vont faire toujours en livre 15 millions que une librairie qui va faire en livre 60, 80 et même plus, et encore. Bon. C'est pour ça, quand on regarde des listings d'éditeurs de littérature générale, que ça soit le listing de Gallimard ou Le Seuil, pour prendre deux grands éditeurs de littérature générale, on retrouve à peu près dans les 150, 200, à peu près les mêmes librairies en littérature, mais on voit très rapidement, numéro 1, c'est toujours le même, c'est la Fnac Forum. Numéro 2, c'est toujours le même, c'est la Fnac Montparnasse. Et puis, en numéro 3, vous avez un petit peu, suivant le cas, je vais donner encore des exemples, vous pouvez avoir les Presses universitaires de France, la Procure, Joseph Gibert, le Furet du Nord, Mola. Bon. Mais déjà, entre la Fnac Forum et la Procure ou Joseph Gibert, il y a déjà un écart qui est énorme, qui est de 1 à 3. Bon. Mais quand on continue, on a passé donc les 5-6 premières librairies, on arrive très rapidement à une librairie qui est à peine au célèbre milliard de centimes. Et puis, quand on passe la 15e librairie, eh bien, on est dans des librairies qui ont ce qu'on appelle les grosses librairies moyennes, 6 millions, 7 millions. Bon. Et puis, très rapidement, on tombe encore, et puis après, un nombre très, très important de librairies qui font des chiffres très, très modestes. D'abord, en chiffre d'affaires global de la librairie, et suivant chaque diffuseur, suivant chaque éditeur.
La librairie est un métier cyclique. Quelquefois ça va bien, même très bien, et puis hop, la crise s'abat. Personne n'achète et les libraires se désespèrent. Tout peut jouer. Le temps, les vacances, la presse, la crise. En ce moment, Cela ne va pas trop mal, comme le pense Michel Ferradou, libraire de la si jolie terrasse de Gutenberg à Paris.
La librairie va bien ?
La mienne, oui. Depuis octobre, elle a été très mal l'année dernière. Et depuis octobre, il y a une remontée assez spectaculaire. Et indispensable d'ailleurs, sinon c'était limite. Moi je suis toujours limite qu'à limite. Il y a des acheteurs de livres, je crois, moi. Il y a des lecteurs. En tout cas, il y a des acheteurs de livres. Je ne sais pas s'ils sont des lecteurs. Il y a des acheteurs de livres, il me semble, à peu près partout. Les librairies existeront toujours, je crois, oui. Des points de vente du livre différents existeront toujours. Et il y aura des librairies, des hypermarchés, des grandes surfaces, des FNAC. Et, bon. Mais avec la loi du prix, bien sûr. Sans cette loi-là, ça paraît très, très compromis.
Le délibraire, il en existera toujours.
Oui, on en forme à l'Asphodelp. Il en vient toujours pour être formé, que ce soit à l'Asphodelp qui est l'école donc, de formation des libraires. La formation de Mulhouse, où les étudiants ont une licence et il faut une formation pour être libraire. Ou la MST de Villetaneuse, des gens qui viennent pour être libraires. Ça reste un métier qui fascine.
Librairie, n'est-ce pas le maximum de serviabilité dans le minimum de place ? Exactement ce que réalise dans les mille et une nuits le gin, tellement serviable, quand on sait le prendre, qui a été enfermé dans un flacon. De la même manière qu'on peut condenser dans le compact parallélépipède d'une Pléiade, Combray, les Champs-Élysées, Etretat, Albertine, Swann, Odette, Charles, Marcel, plusieurs mondes et même les gens du monde. Quand on ouvre la Pléiade, c'est comme lorsqu'on débouche le flacon, le génie déplie ses tapis volants, le bon génie déploie ses ciels variés, et que celui qui a pu dire la première fois où il a entrepris la lecture de la recherche qu'à cette époque, longtemps, il s'est endormi de bonheur, soit solennellement convaincu de mensonge, l'insomniaque Proust rend merveilleusement insomniaque ses lecteurs. À vrai dire, l'entretien dans la librairie n'est pas seulement cet échange de propos qui se tisse entre la librairie, les vendeurs, les clients, mais cet entretien muet qu'on a avec les nouveautés et les résurrections, avec les livres du jour et les livres de fond, avec ce conciliabule de personnes brochées ou cartonnées ou reliées plein cuir ou semble cuir qui, au cœur de la nuit, quand le magasin est fermé, continue en silence à s'entretenir. Il arrive même, si on passe par là vers 3 heures du matin, que malgré les vitres épaisses et pare-chocs de la devanture, on entend les échos d'une altercation. C'est Louis-Ferdinand Céline qui traite Kafka de youtre, tandis que Gide s'interpose, essayant de les séparer et de protéger Kafka du forcené, au nom des valeurs du dialogue et de l'humanisme. Mais au risque de se faire à son tour abreuver d'injures et rouer de coups par Louis-Ferdinand, dont le chat Weber s'éloigne sur le trottoir de la rue de l'Abbaye, désapprouvant sagement cette agitation névrotique.
Jump, 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 jump
Nuit magnétique, les libraires. Ce soir, première émission avec Bernard Wallet, Françoise Pruner, Pierre Pin, Bernard Guillemot, Françoise Sorel, Catherine Martinzet, Michel Ferradou, Jérôme Lindon, Gérard Bourgadier, Henri Causse. Texte de Robert Valzer, Les Enfants Tanner, Gallimard, François Maspero, Le Figuier, Seuil, Claude Roy, Description critique, Gallimard. Merci à Virginie Desmiances et André Marcon qui lisaient ces textes. Les libraires, Nuit magnétique, Jean-Philippe Destrebecq, Noélie Louis-Marie, Arnaud Laporte, Jean Couturier, Laure Adler. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée la première fois le 19 avril 1988 sur France Culture. À suivre. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.